Bonjour chers auditeurs, c'est si vous voulez me prêter vos oreilles, avec Jasmine à l'animation et Stéphane à la technique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album de famille. C'est un livre tiré d'un livre qui parle des célébrités dont je vous laisse le plaisir de découvrir les noms et témoignages au fil de notre audition. Des célébrités qui ont habité Montpellier particulièrement. Rabelais, Nostradamus, Paul Valéry, Thierry Ardisson, Michel Galabru, Régnier de Monaco, Christian Lacroix, Mylène de Mangeau, Nicole Garcia, tous et toutes ont été à un moment quelconque de leur vie des Montpelliérains. Ils ont marqué l'histoire de la ville et en ont gardé des souvenirs inédits. Ils font partie de l'album de famille de Montpellier avec bien d'autres célébrités dont je vous laisse le plaisir de découvrir les noms et témoignages au fil de notre audition. Non, il n'est pas de bon bec ou de bonne plume que de Paris. Mathieu Séguéla le prouve brillamment en rendant enfin à Montpellier la part de gloire qui lui revient. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pierre Soulages, entre autres. Pierre Soulages, Montpellier, c'était l'exotisme. De Rodez à Paris, les hasards de la guerre 39-40 ont conduit le peintre Pierre Soulages à Montpellier. Amoureux d'une Sédoise subjuguée par le Mont-Saint-Clair et émerveillé par le Pérou, l'Aveyronnais Soulages a vécu 5 ans ici. Devenu viticulteur pour échapper au STO, la chance le fera échapper aux arrestations et rencontrer l'écrivain vigneron d'Alteil, ou quand les mots remplacent les pinceaux. Longtemps, les gabatches de l'Aveyron sont descendus travailler dans la plaine du Languedoc. C'était un peu leur trace que vous avez suivie en venant à Montpellier. Oui, mais en faisant d'abord un détour par Paris. Je venais de finir mes études au lycée de Rodez, et j'avais réussi à convaincre ma famille de faire de la peinture ma vie, en leur promettant de devenir professeur de dessin, ce qui les rassurait dans la mesure où un professeur pouvait gagner sa vie. D'ailleurs, j'étais sincère, prêt à enseigner. Je suis alors partie à Paris rencontrer un professeur, lequel m'a dit « Le professorat n'est pas la voie que vous devez suivre. Pour vous, ce sera l'École nationale des beaux-arts et le Grand Prix de Rome. » Sur ses conseils et ses encouragements, je suis allée passer le concours. Mais dès que j'ai su que j'étais admis, je suis repartie à Rodez, bien décidée à ne pas remettre les pieds dans cette école. La guerre ne m'a pas laissé le choix de revenir sur cette décision. J'étais mobilisée, 8 mois sous les armes, l'épreuve de la défaite et la promiscuité des chantiers de jeunesse. Libérée à la fin de 1940, je suis retournée à Rodez. Il n'était plus question d'aller à Paris occupé par les Allemands. Ma mère m'a alors conseillé de faire médecine. Elle me disait « Tu es très fort en physique et chimie. La biologie t'intéresse et à droit comme tu es avec tes mains, tu pourras devenir chirurgien. » Et la chance, j'échappe au scalpel et au bistouri en lisant dans le journal L'Éclair que l'École des Beaux-Arts de Montpellier est habilitée à faire passer le professorat de dessin. J'étais majeure et je suis partie pour la capitale du Languedoc. Vous connaissiez cette région? Très peu. Avec mes camarades soldats, nous n'avions fait que traverser l'Hérault en train. Arrivé à hauteur de 7, il m'avait réveillée en me disant « Tiens, ce paysage est pour toi ». Devant moi s'étendait une sorte de flaque de métal fondu, belle étendue, éclairée par la lune. C'était l'étang de Thau. Je distinguais la silhouette du Mont-Saint-Clair, avec la mer pour seule ligne. J'ai pensé aux mots de Van Gogh en arrivant à Arles. C'est aussi beau que le Japon. Et pour moi, cette vision de Sète, c'était mon Japon. Au fond de moi, j'ai décidé que je reviendrai là un jour. ce jour s'est rapidement présenté puisque le jeudi 13 février 1941, vous arrivez à Montpellier. Débarquant rue Maglone, ma valise à la main, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais habiter. Arrivé de bonne heure par le train, j'avais demandé à un policier de la place de la Comédie l'adresse d'un petit hôtel. Il m'avait indiqué rue Saint-Firmin, l'hôtel Le Clocher de Rodez. J'avais trouvé cela cocasse, puisque j'arrivais de Rodez. En bon rouerga, c'est là où je me suis installée. En fin de matinée, j'ai entendu une rumeur qui venait de la place de la préfecture. Je vais voir ce qui se passe, et là, stupéfaction. J'aperçois une foule immense. Elle criait « Du pain ! Du pain !» Je m'approche bien décidée à manifester avec ces Montpelliérains qui ne se laissent pas abattre. Comme ils regardent tous en direction du balcon de la préfecture, je m'approche à mon tour et là je vois apparaître le généralissime Franco et le maréchal Pétain. Et à ce moment, j'ai compris que ce que scandait la foule, ce n'était pas du pain, mais Pétain, Pétain. Moins politique et poétique, quelle a été votre première impression en découvrant cette ville ? Pour le jeune homme que j'étais arrivant de l'Aveyron, Montpellier, c'était l'émerveillement. Devant la lumière, sur les maisons blondes, entourées de jardins, clos, où poussaient des palmiers. J'ai beaucoup aimé la perspective du Pérou, d'où j'admirais l'espace du paysage scandé par les taches sombres des pins. Ce paysage me faisait rêver au la vie de la campagne romaine de Claude Lorrain. Je trouvais cela magnifique. Vous faites aussi vos débuts à l'École des Beaux-Arts. Cette école a été la première et la dernière que j'ai fréquentée. Mais à cause des événements, je n'y suis restée qu'un an, à cheval, sur les années 41-42. À cette époque, l'École des Beaux-Arts était contiguë au musée Fable. Plus que tout autre, ce musée a compté pour moi. Je passais là, ces journées entières, avec Campana, Zurbaran, Guérico, Courbet et toutes ces peintures dont je scrutais évidemment. Quant au professeur qui nous enseignait, je me souviens surtout de Rudel, Lefebvre et Camille de Caussy. C'est lui qui m'avait rapporté un jour une anecdote sur le général de Lattre qui venait de prendre son commandement à Montpellier. Pour choisir un papier peint de son goût, de Lattre s'était installé dans une grande pièce et avait donné l'ordre à tous ses officiers de monter sur les échelles. La scène devait être assez surréaliste avec tous ces gradés haut perchés présentant à leur général non pas les armes, mais des maîtres de papier peint. Sinon, l'École des Beaux-Arts de Montpellier regroupait des jeunes gens de tout horizon. Beaucoup, à cause de la guerre, s'étaient réfugiés en zone sud, et les conditions de travail étaient loin d'être faciles. Mais le souvenir le plus durable que je garde de cette école reste la rencontre d'une jeune artiste sétoise qui allait devenir ma femme. Colette Laurence, un ami à moi, Jalle d'Ars, m'avait annoncé l'arrivée d'une sétoise qui dessinait d'une manière très intéressante. Elle est arrivée sans bruit, un jour où nous, les élèves, étions en train de travailler dans le grand atelier. Elle a regardé autour d'elle tous ceux qui dessinaient. Je ne vais probablement pas dessiner comme les autres, puisqu'elle s'est assise près de moi pour voir mon travail. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Vous avez fréquenté le milieu artistique de Montpellier ? Très peu. J'ai dû rapidement me cacher pour échapper au STO et cesser de fréquenter les Beaux-Arts. Une des rares personnes avec qui j'étais en contact, c'était le docteur Bonnet, un vieil original qui vivait de ses vignes de Mudaison et tenait salon à Montpellier. En bas de chez lui, il avait ouvert une galerie de peinture, autant par amour de l'art que pour récupérer un bail de commerce. C'était là où il a monté une série d'expositions. En général, des peintres réfugiés à Montpellier qui vivaient en semi-clandestinité. Par exemple, le docteur Bonnet a fait une exposition d'un peintre, un réfugié allemand, qui signait Frabo. De son vrai nom, il s'appelait Beau. Il y a eu aussi une exposition des photographies de Wolfs. C'est ainsi que j'ai connu cet artiste qui, après la photo, débutait à peine en peinture. À partir de la fin 1942, le docteur Bonnet a eu peur que ses expositions d'œuvres contemporaines ne lui créent des problèmes avec les autorités allemandes. Pour les nazis, l'art abstrait, c'était de l'art dégénéré, qu'il fallait détruire. Alors j'ai conseillé au bon docteur d'exposer des dessins de fous. Ça lui permettait de dire aux Allemands qu'il s'intéressait à l'art sous un nom clinique, parce qu'il était médecin. En même temps, il pouvait continuer à exposer des toiles de ses amis peintres en arguant de leur prétendue folie. L'astuce a marché, et même plus qu'il ne pensait, puisque les œuvres des fous ont fini par intéresser des gens passionnés d'art contemporain, comme Jean Duché. Vous avez exposé dans la galerie du docteur Bonnet ? Non, ni là ni ailleurs à Montpellier. Je n'ai commencé à monter mes toiles qu'à partir de 1947 à Paris. Avant cette date, je ne me considérais pas encore comme un peintre. Il devait y avoir des vernissages dans cette galerie, quelquefois. J'ai souvenir d'une réception donnée par le docteur dans sa maison. Tout le gratin montpelliérain était invité. Comme Bonnet était un bonhomme très déconcertant, il avait décidé ce jour-là de recevoir ses invités sans col de chemise. Cette échancrure lui donnait un air de guillotiné qui rendait les gens très perplexes. Arrivent trois personnages de vénérables professeurs de faculté de Montpellier. Le docteur Bonnet me prend par le bras, m'entraîne vers eux et me dit « Venez, je vais vous présenter au doyen et à ses deux acolytes. » Je le suis et au moment où je serre la main du doyen, Bonnet me dit devant lui « Je vous présente monsieur le doyen, c'est un vieux con. » Vous imaginez le choc et ma gêne devant ce vieux monsieur. Les deux professeurs, eux, avaient des mines indignées. Quant au doyen, il me souriait gentiment en hochant la tête. C'est à ce moment-là que le docteur Bonnet m'a dit « Ne vous inquiétez pas, il est sourd comme un pot. » Comment faisiez-vous pour vivre dans cette période de l'occupation ? J'étais devenu vigneron par nécessité pour échapper au STO. Je m'occupais de la propriété de la Valcière, aux portes de Montpellier. J'avais fait en sorte de me procurer une vraie carte de travailleur agricole. Avec la virtuelle complicité d'un agent des assurances sociales, j'avais précisé sur ma carte mon appartenance à la mutualité agricole depuis 1940. Cela vous a servi ? Bien m'en a appris. Peu de temps après, j'étais convoqué à la préfecture par le bureau allemand qui vérifiait les cartes de travail. Le chef qui contrôlait les cartes m'a dit « Montrez-moi vos mains ». Je m'exécute et je m'entends dire « Ce ne sont pas des mains d'agriculteurs ». Je le prends de haut et lui rétorque que je suis chef d'exploitation. Je peux même vous montrer le certificat de mon employeur. Non, on sait ce que ça vaut. Un certificat du maire de la commune. Non plus. Si ce que vous dites est vrai, vous devez avoir une carte d'assuré social. Et au moment où il croyait me coincer, je lui sors ma carte d'assuré social. J'avais bien pris soin d'en user les bords, de la plier, de la salir. J'ai alors vu le fonctionnaire allemand, impeccablement habillé, prendre avec dégoût ma carte. Il devait penser « qu'ils sont sales, ces Français ». Il l'a longuement regardée, puis l'a tamponnée avant de me la jeter dédaigneusement. Je suis sorti de la préfecture, encore un peu frémissant. Quand j'ai senti une main s'abattre sur mon épaule, je me retourne et là, soulagement, c'était un ami qui venait me saluer. Mais une simple carte ne protégeait pas des rafles. Vous n'avez jamais été contrôlé ? Il fallait effectivement éviter les barrages de la Gestapo française. Là, ils s'arrêtaient les gens qui étaient en âge d'aller travailler en Allemagne. Si vous leur tendiez cette carte, ils la déchiraient et vous embarquaient destination le Reich. Alors, pour éviter les contrôles, ma femme roulait en vélo 150 mètres devant moi et lorsqu'elle apercevait quelque chose de louche, elle passait son sac du côté droit du guidon sur le côté gauche. À ce signal, je m'arrêtais et faisais dérailler la chaîne. Je descendais de vélo et je rebroussais chemin. Comme mon manège se passait assez bien du barrage, je n'éveillais pas les soupçons. We'll be right back. Alors jamais arrêté ? Si, une fois. Ma femme et moi, les vélos à la main, nous marchions sur le boulevard Louis Blanc en direction de l'esplanade. Tout à coup, deux types se précipitent sur moi, revolver au poing. C'était tellement gros que je crois à une farce de copains, mais les visages de mes agresseurs n'ont rien de familier. En plus d'avoir un revolver dans le dos, je dois arriver un troisième homme avec des menottes. Nos vélos nous avaient été arrachés, mais ma femme avait eu le temps de s'enfuir. Très surpris, je finis par leur dire « Qui êtes-vous » Froidement, ils me répondent « Fais pas le malin, on te suit depuis 2 jours ». Et là, j'ai eu un réflexe stupide. J'étais tellement en colère que j'ai envoyé une manchette au type qui allait me passer les menottes. Elle vole en l'air et furieux, mon type sortant son revolver hurle « Salaud, je vais te crever !» Je crois qu'il l'aurait fait si son collègue, qui était derrière moi, n'avait pas été dans l'axe de son tir. Ils m'ont alors entraîné dans une traction noire conduite par un quatrième homme. Poussé dans la voiture, je l'apostrophe. « Qui êtes-vous ? Vous en voulez à mon portefeuille ? Je n'ai pas d'argent. »« Police !» me répond l'homme au volant. Et comme je ne le croyais pas, il me sort sa carte. Puis se tournant vers les autres, il leur dit « Bah, je suis sûr que c'est pas lui. » J'en profite pour ajouter « Vous allez bientôt avoir de mes nouvelles. » Et les compliments de l'intendant Marty. Là, je bluffais totalement. Ce Marty, je ne le connaissais que de réputation. Celle d'une crapule, intendant de police de Vichy, qui à la libération avait d'ailleurs été fusillé. Au bout de quelques minutes, ils m'ont libéré, sans un mot d'explication. Vous avez su la cause de votre arrestation ? Je ne l'ai appris que plus tard. J'avais été victime d'une méprise. Gaston Poulain, le conservateur du musée de Castries, faisait office de boîte aux lettres pour la résistance et habitait ce quartier. Quelques jours avant, il avait reçu chez lui la visite d'un chef du maquis. Un homme signalé comme très grand de taille, avec des cheveux ondulés, un collier de barbe et portant une canadienne. Exactement mon signalement. Ce n'est qu'une fois relâché que j'ai eu peur. J'ai senti mes jambes se dérober, tandis que Colette me rejoignait. Elle était partie demander l'aide d'André Collot, un sétois qu'elle connaissait et qui était le chef de cabinet du préfet Hauteberry. Ces deux fonctionnaires étaient d'ailleurs dans la résistance. Quant à moi, j'en étais quitte pour une bonne frousse. On peut dire que vous avez eu de la chance. Je crois beaucoup à la chance. Et indéniablement, j'en ai eu. Là et plus tard, je crois même à la chance dans mon travail. J'ai toujours dit qu'il fallait dans la pâture beaucoup de connaissances, de l'intuition, mais aussi quelque chose qui peut vous échapper, comme vous tombez dessus, la chance. Rien ne se fait sans chance, à commencer la chance de la survie. Loin du théâtre de la guerre, une rencontre a été particulièrement marquante pour vous. C'est celle de Joseph Delteil. Le domaine de la Valsière où je travaillais se trouvait à quelques centaines de mètres de la Tuilerie de Massane, où vivait Delteil. Je l'ai rencontré au coin d'une vigne. Je savais qui il était et je lui ai tout de suite dit que j'étais en situation irrégulière. Cette manière que j'ai eue de me confier à lui a dû le toucher, car il m'a aussitôt invité à venir prendre un verre le soir à la Tuilerie. Je suis allée avec ma femme. Il a été très chaleureux avec nous. À partir de là, a commencé une amitié qui n'a pas cessé. Presque tous les soirs, j'allais voir Joseph Delteil et son épouse Caroline. Nous parlions de tout sauf de la guerre, excepté de Stalingrad. Là, on a dit « ça y est, c'est le commencement de la fin, ça bascule ». Et puis il y a eu la libération de Paris qui nous a rendus fous de joie. Pour elle, celle de Montpellier, Colette et moi, avons été fous tout court. Nous sommes descendus en ville au moment où les Allemands se repliaient. Un de leurs camions s'est arrêté devant nous, la bâche s'est relevée et des soldats ont pointé leurs mitraillettes sur nous. Finalement, ils sont repartis. Delteil était d'une compagnie agréable. C'était un plaisir toujours renouvelé que de venir le voir. À la fin de chacune de nos soirées, il me disait « On se voit demain ?» Et le lendemain, nous étions repartis pour passer une nouvelle soirée de discussion et de débat. Nous jouions aussi. Je me souviens, il y avait le baron d'Albenas qui fréquentait la Tuilerie de Massane. C'était un homme très marqué par sa classe sociale et il nous amusait. Un jour, nous jouions au poker, le baron d'Albenas est arrivé et nous lui avons demandé de prendre place. On jouait avec des haricots, Mais il ne savait pas que les francs dont on parlait étaient complètement fictifs. Et il s'est trouvé que le pauvre baron a tout perdu à la fin de la partie. Il était un peu affolé et tout pâle. Il a dit « Je suis obligé de vous demander un délai ». Alors seulement on lui a dit qu'il n'était pas question d'argent. Mais on avait laissé méchamment planer le doute jusqu'au bout et ça amusait prodigieusement Dalteil sadiquement. De quoi parliez-vous avec lui ? Des choses tout à fait matérielles comme la culture de la vigne, la qualité du sol, le cépage, le raisin ou le climat. Mais derrière des thèmes aussi terrestres que ceux-là, c'était en transparence des choses beaucoup plus importantes. L'écriture, la peinture. Quand je lui ai dit que j'étais peintre, il a voulu voir ce que je faisais. Je ne pouvais pas travailler vraiment à la peinture, étant occupé avec la vigne, mais enfin je lui ai montré, je me souviens, un paysage d'arbres noirs contre un ciel clair. Et il a eu ce mot qu'il a repris par la suite dans la préface pour l'exposition que j'ai eue au musée de Montpellier en 75. « Ah, le noir et le blanc. Vous prenez le peintre par les cornes, c'est-à-dire par la magie. Et quand on a à peine plus de 20 ans et qu'un homme comme Dalteil, qui a connu Picasso, qui a été l'ami de Chagall, de Delaunay, qui a fréquenté les grands peintres contemporains, vous dit une chose pareille, ça aide. Pour moi, ça a été très important, ce mot. À ce moment, je n'étais rien. Il a cru en moi. Pour simplifier, je peux dire que c'est quelqu'un qui a cru tellement en moi que moi-même, j'ai fini par y croire. » Paul Valéry. Ici, il n'y a que du meilleur soleil. Enfant de Sète, Paul Valéry a passé son adolescence à Montpellier, où il fut tour à tour lycéen, étudiant et militaire, avant de se découvrir poète. À travers la genèse d'une œuvre, Madame Agathe Rouard-Valéry évoque la figure de son père et retrace les moments privilégiés de ses années de lumière. Le fameux banquet de Palavas le 26 mai 1890, où il se lia d'amitié avec Pierre Louis, la tendre affection de son frère, le doyen Jules Valéry, et les flâneries au Jardin des Plantes en compagnie d'André Gide sont autant de soleil dans la vie de Paul Valéry, fils de la Méditerranée. Je sentais quelquefois, quand je me dirigeais vers les terrasses du Pérou, qu'un certain mode de pensée m'y attendait. Je m'arrêtais, je regardais ces belles terrasses. Je déplorais naïvement que ceux qui les avaient plantées d'ormes et de platanes ne les eussent jamais plus tôt peuplées de cyprès, de qui les masses puissantes et sombres et les cimes infiniment délicates eussent fait de ce haut jardin une sorte de temple ou une île bienheureuse élevée au-dessus de la cité. Merci, chers auditeurs. J'espère que vous êtes régalés en écoutant ces voix montpelliéraines. Je vous dis à bientôt. Merci à Stéphane, à la technique et à la prochaine fois. Bonne journée.